Actes Sud Audio présente.
Actes Sud Audio présente.
Le chasseur de lapins de Lars Kepler. Lu par Bernard Gabet. À cette heure matinale, l'eau lisse de la baie renvoie des éclats d'acier brossé. Les luxueuses villas sont plongées dans une torpeur nocturne, mais les piscines et les jardins éclairés rayonnent à travers les hautes clôtures et les branchages. Un homme ivre marche sur la route qui longe la plage, une bouteille de vin à la main. Arrivé devant une maison blanche dont la longue façade vitrée donne sur la mer, il s'arrête et s'applique à poser la bouteille pile au milieu de la route. Puis il enjambe le fossé, escalade la grille en fer forgé et pénètre dans le jardin. L'individu traverse la pelouse en titubant, s'arrête et vacille un instant en regardant les grandes baies vitrées, l'éclairage de la terrasse qui s'y reflète et les contours obscurs des meubles à l'intérieur. Il s'approche davantage, salue de la main un nain de jardin en porcelaine d'une cinquantaine de centimètres et contourne une palissade. Il trébuche et se cogne le genou quand il monte sur le deck de la piscine, mais se rattrape et se remet debout. L'eau scintille tel un lingot de vert bleu ciel. L'homme vacillant s'arrête au bord du bassin, ouvre sa braguette et se met à uriner dans l'eau. Puis il se dirige d'un pas chancelant vers les meubles de jardin et arrose généreusement les fauteuils, les coussins et la table ronde. Des vapeurs d'urine montent dans l'air frais. Il referme sa braguette et observe un lapin blanc qui gambade sur le gazon, puis disparaît sous un buisson. Un sourire aux lèvres, il retourne vers la maison, passe devant les baies vitrées de la terrasse et s'appuie contre la palissade. Il descend sur la pelouse, s'immobilise et se retourne. Son cerveau embrumé par l'alcool essaie de comprendre ce qu'il vient de voir. Une personne vêtue de noir, avec une drôle de tête, l'a dévisagé. L'individu se trouvait-il à l'intérieur de la maison obscure ? Où se tenait-il derrière lui, l'observant dans le reflet de la vitre? Chapitre 1. Vendredi 26 août. La bruine tombe doucement des nuages sombres. Le halo urbain terne s'élève vers le ciel, à 30 mètres au-dessus des toits. Il n'y a pas de vent, et les gouttes éclairées forment une sorte de coupole nébuleuse sur toute la commune de Tjursholm. Une immense villa fait face à l'eau tranquille de la baie de Germaniaviken. À l'intérieur, une jeune femme traverse le parquet verni et foule le tapis persan, aux aguets. Elle s'appelle Sofia Stefansson. Tenaillée par l'inquiétude, elle enregistre le moindre détail de la pièce. Sur l'accoudoir du canapé est posée une télécommande noire dont les piles sont maintenues par du scotch transparent. Il y a de légères traces de verre sur la table. Un vieux sparadrap est resté collé aux franges du grand tapis. Derrière Sofia, le parquet grince comme si quelqu'un la suivait à travers les pièces. Ses pas sur le dallage extérieur mouillé ont laissé des éclaboussures sur ses talons hauts et ses mollets musclés. Elle ne joue plus au football depuis 2 ans, mais elle a toujours des jambes d'athlète. Dans sa main, elle dissimule à l'homme qui l'attend une bombe de gaz lacrymogène. Elle se répète qu'elle a choisi de venir, qu'elle veut être là, qu'elle maîtrise la situation. Près d'un fauteuil, l'homme qui a ouvert la porte l'a relu couvertement. Sofia a des traits symétriques, des joues rondes, juvéniles. Elle porte une robe bleue qui laisse ses épaules dénudées. Une rangée de petits boutons recouverts de tissu descend entre ses seins. Le petit cœur en or de son collier sautille dans le creux de sa gorge au rythme de son pouls accéléré. Elle sait qu'elle pourrait s'excuser, dire qu'elle ne se sent pas très bien et qu'elle doit partir. Il serait peut-être irrité, mais il respecterait sa volonté. L'homme l'observe avec une sorte d'avidité mélancolique dans le regard, et une peur soudaine noue le ventre de Sofia. Il lui semble tout à coup qu'elle l'a déjà rencontré. C'est peut-être un cadre supérieur qu'elle a aperçu sur un lieu de travail ou le père d'une copine de classe. Sofia s'arrête à quelques mètres de lui, sourit et perçoit les battements rapides de son propre cœur. Elle a l'intention de maintenir cette distance, jusqu'à ce qu'elle ait analysé ses mouvements et le ton de sa voix. La main qui serre le dossier du fauteuil ne montre aucun signe d'agressivité. Les ongles sont soignés et l'alliance patinée témoigne d'un long mariage. « Jolie maison, » dit-elle, et elle écarte une mèche brillante de son visage. « Merci, » réplique-t-il en lâchant le dossier. Il doit avoir tout juste 50 ans, mais il bouge avec une sorte de lourdeur d'âme, comme un vieux dans sa vieille maison. « Vous êtes venu en taxi ?» demande-t-il en déglutissant. « Oui. » Nouveau silence. Une pendule dans la pièce voisine émet deux brèves sonneries aiguës. Une poudre rouge safran tombe sans bruit des pistils d'un lys épanoui dans un vase. Assez tôt dans la vie, Sophia a compris que le sexe l'attirait. Elle aime se sentir appréciée, aime la sensation d'être choisie, mais elle n'est jamais vraiment tombée amoureuse. « On ne s'est pas déjà rencontrés ?»«
Je m'en souviendrai, » répond-il avec un sourire dépourvu de joie.
Ses cheveux blonds grisonnants sont fins et coiffés en arrière. La peau de son visage flasque est un peu luisante et une ride profonde sillonne son front. Sophia hoche la tête en direction des tableaux sur le mur. « Vous êtes collectionneur ?»«
Je m'intéresse à l'art, » explique-t-il.
Ses yeux clairs l'observent derrière les lunettes à monture d'écaille. Elle se détourne, glisse la petite bombe lacrymogène dans son sac à main, puis s'approche d'une grande peinture dans un cadre doré. Il la rejoint, s'arrête un peu trop près en respirant par le nez. Sophia sursaute quand il lève sa main droite vers la toile.
19e siècle. Carl Gustav Hellqvist, dit-il comme s'il donnait un cours. Il est mort jeune, après une vie difficile, des migraines épouvantables, des électrochocs. Mais c'était un peintre extraordinaire.
Fascinant, commande-t-elle à mi-voix.
Oui, je trouve aussi.
L'homme se dirige vers la partie salle à manger de la pièce et Sophia lui emboîte le pas avec la sensation désagréable de se laisser entraîner dans un piège. Il lui semble que la trappe se referme sur elle avec une lenteur engourdie, que les grandes roues dentées tournent et ferment tout chemin de fuir, centimètre par centimètre. L'immense salon salle à manger aux fenêtres à croisillons donnant sur la baie est meublé de plusieurs canapés et d'armoires qui n'y semblent pas tout à fait à leur place. Deux verres remplis de vin rouge sont posés au bord de la table ovale.
« Puis-je vous offrir un verre de vin ?» demande-t-il en se tournant vers elle.
« Je préférerais du vin blanc, si vous en avez, » répond-elle, redoutant qu'il essaie de la droguer.
« Du champagne ?»
dit-il sans la lâcher du regard.
« Volontiers ?»«
Mais oui, bien sûr, c'est du champagne qu'il nous faut, » décide-t-il. « Quand on se rend chez un parfait étranger, on se sent tout petit. Chaque pièce peut être un piège et chaque objet une arme potentielle. » Sophia préfère les hôtels où quelqu'un peut l'entendre si elle appelle au secours. Elle le suit vers la cuisine. Un son étrange à très haute fréquence s'élève, impossible à localiser. L'homme ne semble pas le remarquer, mais Sophia s'arrête sur le pas de la porte, tourne les yeux vers les fenêtres sombres et s'apprête à dire quelque chose lorsqu'elle entend un craquement, un peu comme un glaçon qui crépite quand on le glisse dans un verre plein.
« Vous êtes sûr qu'il n'y a que nous dans la maison ?» demande-t-elle.
Elle pourra rapidement se déchausser et courir vers l'entrée s'il se passe quoi que ce soit, se dit-elle. A priori, elle est beaucoup plus agile que lui, elle aura le temps de fuir si elle laisse ses affaires. Elle reste dans l'embrasure de la porte et le regarde sortir une bouteille de Bollinger d'une cave à vin. Il la débouche et remplit deux flûtes, attend que la mousse disparaisse, puis en rajoute un peu avant de la rejoindre. «